À nous entendre chanter ce matin, on peut se demander, mais qu'est-ce qui fait que des personnes encore aujourd'hui se rassemblent comme ça, chantent de tout leur cœur? Qu'est-ce qui fait que des personnes encore aujourd'hui se rassemblent, unissent leur voix, font déborder des cris de joie, arborent de grands sourires et répètent à l'envi que leur Rédempteur vit? S'il y a une chose certainement qui nous fait chanter comme ça ce matin, c'est que la parole de l'Évangile est une parole qui est vivante. Et que la personne qui est au cœur de cette parole, Jésus-Christ, est une personne qui a vécu, une personne qui nous a fait connaître le Père, une personne qui aujourd'hui est dans le ciel et qui règne à côté de Dieu le Père pour conduire son peuple que nous sommes. La parole de l'Évangile est une parole vivante. Si nous sommes rassemblés aujourd'hui, c'est parce que nous sommes tous ici convaincus, parce que le Seigneur l'a attesté dans notre vie et dans les événements que nous avons vécus, que ce n'est pas simplement une parole qui a été écrite il y a longtemps avec quelques personnages emblématiques, mais que cette parole continue de nous faire vivre. Et j'aimerais ce matin vous inviter, à la suite de cette série que nous faisons un petit peu avec les anciens, sur revenir un petit peu sur les personnages fondamentaux un petit peu de notre foi, et Dieu lui-même, de regarder la deuxième partie de qui est Jésus. Et il y a quelques semaines en arrière, nous avions fait une première série, et là, Philippe nous avait montré en fait que la venue de Jésus-Christ, ce n'était pas simplement à un moment un personnage qui s'était levé en Israël, qui avait un charisme tout à fait particulier et qui quelque part s'est imposé de lui-même dans l'histoire, mais que Dieu avait préparé cette venue. Que c'était l'intention même de Dieu depuis la création du monde. Et Philippe nous a bien montré que dès le texte de la Genèse, il nous est montré que l'intention de Dieu, c'était de faire venir son Fils afin de nous réconcilier à lui et afin de nous révéler pleinement qui est Dieu et comment nous pouvons vivre avec lui. Il n'y avait pas de hasard. Quel autre grand homme aujourd'hui est dans un sens décrit comme étant l'aboutissement de l'histoire, l'aboutissement du plan de Dieu? Seul Jésus parmi tous les hommes qui sont révérés aujourd'hui est celui qui est l'objet d'un plan divin et qui a abouti. Et puis Jean-Paul nous a parlé, lui, de cette particularité dans la personne même de Jésus-Christ, qui est dans sa personne, il est à la fois Dieu et à la fois homme. Parce que Dieu n'avait pas pu trouver un seul homme qui soit digne de sauver les autres hommes. Pas un seul homme qui avait été fidèle. Pas un seul homme qui avait écouté la parole et avait obéi. Mais Dieu n'a pas baissé les bras et il a décidé lui-même de devenir homme. Il a décidé lui-même de prendre la condition des hommes, de s'humilier et de devenir l'un d'entre nous pour pouvoir se présenter devant Dieu et dire « Oui, les hommes sont obéissants. Oui, les hommes peuvent être justes parce que moi, Jésus, je le suis. » Et Jean-Paul l'avait aussi mentionné, et ça j'aimerais le répéter, c'est qu'aujourd'hui, Jésus reste Dieu et homme à la fois. Dieu, Jésus n'a pas perdu une coque humaine lorsqu'il est remonté au ciel et il est redevenu Dieu-Esprit. Il subsistera pour l'éternité un homme et Dieu à la fois. Et dans ce sens-là, il est l'un d'entre nous auprès de Dieu. Il est notre frère aujourd'hui encore. Mais aujourd'hui, ce que nous aimerions faire avec Pierre, c'est se pencher pour quelques instants sur non pas la personne de Jésus, mais si Jésus est celui qui devait venir et celui qui vient, c'est parce qu'il avait quelque chose à accomplir. Dieu l'avait envoyé avec une mission. Jésus-Christ, plusieurs fois dans son ministère, dira « Je dois faire la volonté de mon Père. Je suis celui qui doit venir parce que j'ai été annoncé. » Alors on pourrait se dire, mais par où commencer lorsque on pense à la parole, à l'œuvre de Jésus-Christ? Et comme dernièrement nous avons utilisé parfois certains textes de la chrétienté qui ont essayé de capturer dans certaines formulations ce que l'enseignement biblique dit. Ici, depuis un certain nombre de siècles, les théologiens chrétiens ont dit, en fait, l'œuvre de Christ peut se résumer en trois choses. Il y a trois offices, comme on dit, dans l'œuvre de Jésus-Christ. Il est d'une part prophète, il est ensuite prêtre, et enfin il est roi. Et ces trois mots et ces trois fonctions que nous allons un petit peu étudier ce matin récapitulent l'œuvre de Jésus-Christ qu'il a faite. Et c'est ce qu'on appelle les trois fonctions christiques ou les trois offices christiques. Clément, est-ce que tu peux mettre le texte ? Ici, nous avons un texte qui est tiré de l'Apocalypse, qui parle de Jésus-Christ lui-même, donc c'est dans l'introduction au chapitre 5. Et en parlant de Jésus-Christ, ils le décrivent tout simplement, l'apôtre Jean le décrit tout simplement, Jésus-Christ est le témoin digne de foi. Il est le premier-né d'entre les morts et le souverain des rois de la terre. Il nous aime, il nous a délivrés de nos péchés par son sang. Et ici, nous voyons qu'en fait, témoin digne de la foi renvoie à la fonction prophétique de Jésus et en quoi il était un prophète. Souverain des rois de la terre nous renvoie à sa royauté, et une royauté qui est encore plus glorieuse que celle de l'Ancien Testament, et il nous a délivrés de nos péchés, renvoie à cette troisième fonction qui est celle de prêtre ou de souverain sacrificateur auquel nous reviendrons. Dire que Jésus est prophète, prêtre et roi, un gros avantage parce que ça associe tout l'enseignement de l'Ancien Testament avec l'enseignement du Nouveau Testament. Ça associe toutes les figures et les annonces de l'Ancien Testament, et vous savez comme moi qu'il y avait des dizaines de prophètes, il y avait des dizaines de rois, il y avait des dizaines de souverains sacrificateurs. Ça existait déjà dans l'Ancien Testament, mais tout ça n'était qu'une figure, n'était que l'ombre de ce qui devait aboutir et se manifester pleinement en la personne de Jésus-Christ. Et nous n'entrerons pas dans ces détails aujourd'hui, mais dans l'Ancien Testament, ces trois fonctions étaient distinctes les unes des autres. Même il était interdit que le prêtre soit aussi prophète. Pardon, que le prêtre soit aussi roi. Et il y a toujours eu cette distinction. C'était interdit de la part de Dieu, mais on se rend compte que dans l'Ancien Testament, c'était toujours séparé. Mais on arrive dans le Nouveau Testament et tout ça se rassemble. Mais pour bien comprendre en fait ce que Jésus a accompli pour nous, il n'est pas rien et il n'est pas inutile de regarder un petit peu l'Ancien Testament et de savoir ce que nous disent l'Ancien Testament sur ces trois offices. La première des choses par rapport au prophète, c'est qu'avant tout, le prophète est un porte-parole de Dieu. On a l'impression souvent que le prophète, c'est celui qui annonce à l'avance. Et on dit, le prophète, c'est celui qui est avant, donc il annonce les choses qui vont venir. Ce n'est pas tout à fait faux, mais ce n'est pas le premier sens du mot prophète. Le premier sens du mot prophète et son utilisation dans l'Ancien Testament, c'est celui qui parle au nom de quelqu'un d'autre. Et lorsque Dieu appelle des prophètes comme Jérémie, il lui dit, Jérémie, tu seras comme ma bouche. Il est dit aussi à un moment que Aaron était le prophète de qui ? De Moïse. Dans Exode, au chapitre 4, là où Moïse dit, mais je ne sais pas parler. Dieu lui dit, je t'enverrai ton frère, Aaron, et il sera ton prophète. Il parlera en ton nom. Mais celui qui parle au nom du Seigneur dans l'Ancien Testament, il y a une petite chose supplémentaire, c'est que ce n'est pas simplement celui qui enseigne la parole, ou qui enseigne dans le cadre de l'Ancien Testament la loi. Celui qui enseigne dans l'Ancien Testament, c'est le prêtre. C'est lui qui explique la Torah, les commandements de l'Éternel. Mais il y a une dimension supplémentaire au prophète, c'est que lorsque le prophète parle, il applique la parole du Seigneur à un moment particulier. C'est celui qui, dans une circonstance particulière de l'histoire d'Israël ou de la vie du peuple de Dieu, dit « La parole de Dieu s'applique de cette façon-ci aux circonstances dans lesquelles nous vivons. » Et souvenez-vous un petit peu comment Dieu a envoyé des prophètes au cours de l'histoire d'Israël. C'était moins pour leur expliquer ce que disait la loi, que c'était plutôt de leur dire, aujourd'hui, dans les circonstances dans lesquelles vous vivez, la parole de Dieu s'applique de cette façon-là. Et c'est comme aujourd'hui, avec les défis dans lesquels nous vivons aujourd'hui, nous avons besoin de personnes qui se lèvent avec des dons de prophétie pour nous dire, la parole de Dieu, dans les cas présents que nous vivons, avec toute leur complexité et leurs difficultés, c'est celle-ci. Et là, il y avait cette particularité du prophète, c'est-à-dire qu'il parlait et il délivrait la parole de Dieu d'une façon qui était complètement liée au déroulement des événements et de l'histoire. Et c'est ainsi qu'un prophète, c'est quelqu'un qui interpelle, c'est quelqu'un qui reprend, c'est quelqu'un qui encourage, mais ça peut être quelqu'un qui quelquefois censure. Et lorsque vous imaginez ou repensez un petit peu au ministère de Jésus sur terre, il a appliqué tout cela en tant que prophète. Mais le problème dans l'Ancien Testament, vous le savez comme moi, c'est qu'il y a un certain nombre de faux prophètes qui se sont levés. Tous les prophètes n'étaient pas aptes à porter la parole de Dieu. Certains d'entre eux se sont arrogés ce privilège. Et combien de fois est-ce qu'il a fallu que le Seigneur combatte les faux prophètes? Et pourtant, dès le début dans l'Ancien Testament, là, au moment où Moïse, le plus grand des prophètes, est apparu, Dieu lui dit aussi, et par sa bouche, il dit au peuple d'Israël, dans le livre de Deutéronome, et il dit par Moïse, « Je vais vous susciter un prophète comme toi, Moïse, un de leurs compatriotes, et je mettrai mes paroles dans sa bouche, et il leur transmettra tout ce que je lui ordonnerai. » Et là, comme nous avions dans la Genèse l'annonce de la venue de Jésus, déjà dès le livre du Deutéronome, avant même que tous les prophètes se lèvent en Israël, Dieu annonce qu'un jour, un prophète, semblable et plus grand que Moïse, se lèvera et lui donnera ses paroles. Et ce thème est repris dans le livre d'Ésaïe, vous savez, tous ces textes où il est parlé du serviteur souffrant, qui annonce de façon admirable qui sera Jésus quand il viendra. Mais là aussi, il est dit dans le chapitre 50 du livre d'Ésaïe, le serviteur est en train de parler, et il dit, « Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue de disciple attentif pour que par ma parole, je sache fortifier ceux qui sont fatigués. » Et là, de nouveau, avec cette annonce prophétique de la venue de Jésus-Christ, nous avons le ministère de prophétie qui se dessine. Ensuite, le prêtre. C'est avant tout, dans l'Ancien Testament, celui qui s'occupe de tout le rituel du culte. J'ai dit tout à l'heure qu'il enseignait, c'est vrai, mais si on regarde vraiment les fonctions qui lui sont principalement attribuées et la façon dont les prêtres exerçaient leur activité dans l'Ancien Testament, c'est ceux qui étaient responsables de ce qui se passait au temple. C'était ceux qui étaient chargés de l'organisation du culte, de tous les rites qu'il y avait. C'est ceux qui présentaient aussi les sacrifices. C'est ceux qui, dans un sens, organisaient et rendaient possible la communion entre les hommes et Dieu. Ah, on n'aime pas toujours dire ce genre de choses-là, et on a surmonté cela avec le Nouveau Testament. Mais dans l'Ancien Testament, c'était les prêtres qui, dans un sens, créaient ces conditions pour que, oui, la louange et les prières des hommes pouvaient être reçues par Dieu. C'est eux qui créent, dans un sens, ces conditions particulières. Chacun n'allait pas de son petit bonhomme de chemin et faisait ce qui lui semblait bon pour prier le Seigneur. À ce moment-là, ce n'était pas comme ça que ça se passait. Il y avait des conditions particulières dans lesquelles on s'approchait de Dieu. Et aujourd'hui, si nous avons la liberté de rentrer ici comme nous voulons, où les uns et les autres nous pouvons prendre la parole, cette liberté n'est pas simplement parce que nous sommes révoltés contre un système de prêtrise. Tout à l'heure, Pierre nous le montrera peut-être, mais c'est parce que nous avons un souverain sacrificateur qui est entré dans ce lieu saint et qui a créé toutes les conditions pour qu'aujourd'hui, en toute liberté, nous puissions prier, louer le Seigneur. Mais une troisième dimension aussi, c'est que le prêtre, il avait le rôle de ôter tous les obstacles qui se dressaient entre les hommes et Dieu pour qu'ils puissent venir l'adorer en toute liberté. Et c'est en cela qu'il était celui qui sacrifiait. C'est lui qui sacrifiait. Et à ce moment-là, il rendait Dieu disponible, bienveillant, parce qu'il avait retiré par le sacrifice les obstacles qui se dressaient entre les hommes et Dieu. Et tout à l'heure, Pierre nous montrera encore comment Jésus-Christ a fait la chose. Et donc pour nous, ce n'est pas tellement que nous nous sommes débarrassés d'un système qui nous embêtait, mais c'est que Jésus-Christ l'a accompli encore plus que nous. Et donc il applique, pardon, le prêtre, il est en charge du culte, et il ôte les obstacles à la prière et à la louange des hommes. Mais nous savons aussi que dans l'Ancien Testament, les sacrifices étaient répétés, que le sang, en fait, n'enlevait pas toutes les souillures. Et même, il y a des textes de la part de l'Éternel qui dit « Je suis fatigué de vos sacrifices. Ce qui m'intéresse, c'est ce qui est dans votre cœur. » Et donc, on se rend bien compte, à la lecture de l'Ancien Testament, que ce système de prêtrise était limité, qu'il avait ses failles, qu'il n'arrivait pas à produire les résultats dont il était chargé. Mais là, de nouveau, si nous lisons cette prophétie à propos du serviteur souffrant qui doit venir et qui est l'annonce de notre Seigneur Jésus-Christ, il est dit au chapitre 52 qu'un jour, lorsqu'il arrivera, il accomplira le rite de l'aspersion pour beaucoup de nations. Et on a le sentiment dans ce texte qu'il le fera une fois pour toutes, de façon définitive, et pas seulement pour le peuple d'Israël, mais aussi pour tous les peuples. Enfin, le roi. Le roi est avant tout quelqu'un qui reçoit de la part de Dieu par l'onction, et l'onction d'huile était utilisée aussi pour les prêtres, parfois pour les prophètes, si on pense à Élisée, mais surtout pour les rois. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passait? C'est que Dieu conférait une autorité, un honneur à son roi et un pouvoir. C'est celui qui a la charge politique de gouverner et de conduire son peuple. Mais plus particulièrement, lorsqu'on fouille et que l'on regarde un petit peu ce dont le roi était responsable, il était responsable de combattre avec le peuple. C'est-à-dire que c'était celui qui partait devant et qui emmenait ses troupes avec lui et qui combattait pour son peuple. Et lorsque la paix était revenue, c'était celui qui siégeait et qui rendait justice à son peuple. Le roi était un vaillant guerrier. Pensez à David. Mais le roi était aussi un juge d'une sagesse extraordinaire. Pensez à Salomon. Et là était le rôle que le Seigneur, en fait, donnait au roi. Et le roi toujours était soumis à l'Éternel et devait être soumis à l'Éternel, mais il était par-dessus tout, dans un sens, ce berger, celui qui protège, qui combat pour son peuple, mais qui en même temps, dans les moments de repos, sait ce qu'il faut faire pour son peuple. Mais là encore, je n'irai pas dans les détails, mais vous savez comme moi combien de rois dans l'Ancien Testament ont failli à leur mission. Lorsqu'on lit quelquefois 2-3 versets sur tel roi ou tel roi, il est souvent dit « Et il fit ce qui est mal aux yeux de Dieu ». Et combien de fois c'est dit dans la royauté? En plus, la royauté est divisée entre Juda et Israël. En plus, la façon dont le peuple d'Israël s'est donné un roi, dans 1 Samuel 8, Dieu il dit à Samuel, n'aie pas peur de leur donner un roi. Je sais que c'est pas... Mais le problème là, c'est pas qu'il demande un roi. Le problème, il nous est dit dans 1 Samuel 8, c'est qu'il rejette l'Éternel en voulant avoir un roi, comme eux pensaient vouloir le roi, au lieu de penser à comment le Seigneur voulait le roi. Donc là aussi, l'Ancien Testament a failli à sa mission. Le peuple d'Israël a failli à sa mission. Il y a toute une attente qui se dresse. Et là, de nouveau, j'en reviens encore une fois à ce texte d'Ésaïe et les chants du serviteur. Et au chapitre 49, il nous est dit « Les rois t'apercevront et ils se lèveront. Les princes te verront et ils se prosterneront afin d'honorer l'Éternel qui est fidèle. Oui, le Saint d'Israël qui t'a choisi. » Donc voilà un petit peu les trois fonctions dans l'Ancien Testament, quels étaient leurs rôles, mais aussi où en étaient les limites, où en étaient les failles, et comment le Seigneur, en fait, préparait la venue de son Fils. Et je passe la parole maintenant à Pierre.
Oui, c'est quand même admirable de voir vraiment ce plan. Ce plan de Dieu qui avait tout prévu, tout était parfait, mais ça n'a pas fonctionné. Moi, je peux dire ça n'a pas fonctionné. Enfin, je pense que vous pouvez voir, c'était visiblement un échec, puisque heureusement, on n'est plus sur ce principe-là de fonctionnement. Et moi, je suis admiratif de voir que c'est vrai, il fallait qu'il y ait un prêtre, il fallait qu'il y ait un roi, il fallait qu'il y ait des prophètes. Et tout ça, au fil de chaque échec, finalement. D'abord, il y avait eu les patriarches, on n'en a pas parlé, mais il y avait eu le patriarche, il fallait mener ce peuple. Et puis ce peuple, le patriarche, il s'en moquait presque un peu. Et donc il a fallu que Dieu fasse se lever, ben Aaron, Moïse, on en a parlé, pour faire cette représentation auprès du peuple, enfin un intermédiaire entre Dieu et le peuple. Et là, ben, ça n'a pas été facile non plus. Il y a eu cette errance pendant 40 années dans le désert. Il y a eu plein de choses. Et après, là, il a fallu qu'un roi, parce que le peuple réclamait un roi. Et moi, je suis surpris de voir que le peuple réclame Dieu. Ben, ok, ben, vous priez, vous demandez qu'il y ait un roi, ben, je vous donnerai des rois. Et il y a eu un roi, des rois. Cette généalogie qui suit après David. Et puis après, encore d'autres, il y a eu des rois, et puis il y a eu le peuple qui s'est divisé. Et après, aussi, dans ce laps de temps, il y a eu aussi ben, des prophètes, parce que ça devenait un peu la gabégie, et il fallait que Dieu parle, il fallait que Dieu se révèle. Et c'est là que les prophètes ont beaucoup parlé aussi. Et moi, ce que je vais vous parler ce matin, précisément, c'est voir maintenant nous qui avons cette parole, qui avons ce recueil par la parole de Dieu et puis par le témoignage que l'on a reçu de la part du Seigneur aussi, on peut recoller un peu ces choses-là et voir comment en Christ, grâce à son œuvre qui est décrite, on peut voir la personne de Christ, la manifestation complémentaire de ses différents offices, de ses différents rôles, le prêtre, roi et prophète. Et ces rôles, John l'a dit, qui sont bien distincts et indispensables pour les fils d'Israël dans l'Ancien Testament, le sont aussi pour nous en tant qu'enfants de Dieu. Et je précise que l'œuvre de Christ ne se restreint pas à son ministère terrestre, mais qu'elle continue encore et encore. Et elle continue, on l'a rappelé ce matin dans la louange, par l'action du Saint-Esprit. Alors que lui, le Seigneur, Jésus, est à la droite de Dieu. Et dans la plupart de ses enseignements, Christ lui-même avait l'habitude de citer les textes bibliques, les lois ou les prophéties, et pour révéler aux religieux de l'époque son identification complète à la loi et aux prophètes. Et l'Épître aux Hébreux, au chapitre 1, verset 1, résume parfaitement la raison de la venue de notre Sauveur et le détail de son œuvre complète. On va lire « Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par la parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. » Alors nous avons par ces versets le constat que le message des prophètes dans l'Ancien Testament était distribué par fragments et puis disséminé dans la parole un peu comme un puzzle et qui n'était vraiment pas facile à comprendre et à interpréter. Et d'ailleurs, les scribes et les docteurs de la loi passaient tout leur temps à essayer de déchiffrer ce message. Et malgré tous leurs efforts, ils ne discernaient pas vraiment totalement le message biblique. Preuve en est le nombre de mots durs de Jésus à l'encontre de ces docteurs de la loi, ou même cette réflexion qu'il fait à Nicodème. Il dit « Tu es docteur de la loi en Israël, et tu ne connais pas ces choses. » Alors, heureusement, Dieu a parlé par le Fils. Lui, le reflet de la gloire et l'empreinte de sa substance. Jean 1, au verset 14, nous dit « Et la parole a été faite chair, et elle habitait parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique du Père. » Et plus loin, au verset 18, « Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père et celui qui l'a fait connaître. » Nul ne pouvait voir Dieu et vivre. Ça, c'était une vérité. C'est dans Exode 33. C'est justement ce que nous disait l'Ancien Testament. Et le Nouveau Testament nous répond, ce verset en Colossiens 1, verset 15, « Jésus est l'image du Dieu invisible. Et lui, le Fils, l'a fait connaître. Jésus nous a révélé le Père. » Mais alors, que nous ont révélé la loi et les prophètes? À quoi servait cette loi, si ce n'est seulement à nous révéler le péché? Là encore, Galates 3, verset 24 nous dit « Ainsi la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par lui. » Et Hébreux 10, verset 1 « En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. » Finalement, tous ces textes de l'Ancien Testament nous disent que ces versets ont servi à préparer le cœur de l'homme pour le conduire vers Christ, mais sans pour autant le rendre parfait. Le désir le plus cher de Dieu est de partager la vie des hommes faits à son image. Et depuis la chute, cela était devenu totalement impossible. Mais à part si son Fils unique nous montre l'image du Dieu invisible et surtout assure notre réconciliation avec le Père. Mais seulement, il y a encore un hic. La loi et les prophètes, le texte écrit, les promesses et ordonnances de Dieu, que Dieu lui-même n'a plus, le Dieu Tout-Puissant, je dirais, n'aurait plus la capacité de contredire. C'était écrit, il ne pouvait plus en arrière. Et donc il fallait que cette parole soit mise en pratique et ses ordonnances appliquées. D'où cette notion de la parole faite chair proposée par Jean, de la parole incarnée que Jésus devait accomplir à tout prix. Matthieu 5, verset 17, « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes, je suis venu non pour l'abolir, mais pour accomplir. » Et là, on est vraiment au centre de l'œuvre de Christ, accomplir la loi et les prophètes, pour à la fois glorifier Dieu, l'auteur de cette loi, et aussi racheter et conduire les hommes condamnés par la loi. Alors voilà, c'est ce que nous vous proposons de voir maintenant, comment Christ tout seul, lui tout seul, il a pu assurer simultanément le rôle de prêtre ou de sacrificateur, de roi et de prophète. Et tout d'abord le prêtre, moi ce qui interpelle dans cette œuvre de Jésus durant son ministère, c'est que le prêtre, on l'a vu, offrait d'ordinaire des sacrifices. Et pour Jésus, c'est lui qui s'offre lui-même. C'est lui qui fait couler son propre sang sur la croix, et ça pour effacer les péchés de l'humanité. Et l'Épître aux Hébreux, encore particulièrement, nous présente Christ comme le souverain sacrificateur. Et je vous propose de parcourir brièvement, on va lire plusieurs passages à la suite. On l'a lu déjà dans le premier verset, premier chapitre, verset 3, Jésus a fait la purification des péchés. Ça, c'est le rôle spécifique du souverain sacrificateur, libérer le peuple du péché. Plus loin, dans le chapitre 4, verset 14, ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. En plus du salut offert grâce à son sacrifice, Jésus nous secourt dans nos besoins et il intercède pour nous. Un peu plus loin, Hébreux 7, verset 25, il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder à leur faveur. Et c'était bien entendu le rôle des prêtres d'intercéder pour le peuple, de les sanctifier pour qu'ils obéissent à la loi, mais malheureusement sans qu'ils aient la possibilité de parvenir à la perfection. Et Hébreux 10, verset 1 nous rappelle cela, la loi ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Heureusement, Jésus, le souverain sacrificateur par excellence, par son unique sacrifice, s'est assis à la droite de Dieu pour intercéder pour nous. Et le verset 14 de chapitre 10 d'Hébreux, car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. C'est le rôle du sacrificateur de nous approcher de Dieu en nous purifiant de tout péché. Et Christ nous a ainsi introduits, purifiés dans la présence de Dieu, et ceci derrière ce voile déchiré, derrière cet accès inaccessible auparavant pour nous. Le second rôle que notre Seigneur a assuré est le rôle de roi. Et là aussi, alors que le roi qui d'ordinaire dominait sur son peuple et assujettissait ses serviteurs, pour Jésus, c'est lui qui fait grâce. C'est lui qui sert, c'est ce roi qui sert, qui lave les pieds de ses disciples. Et malgré le fait que Jésus soit né comme étant le roi des Juifs, en tous les cas, c'est comme cela que les mages d'Orient, grâce à l'étoile, ont reconnu le Christ. Jésus, lui, refuse d'assurer ce rôle selon des principes terrestres. Jean 6, verset 15 nous dit « Et Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne lui seul. » Jésus, là, prend un peu la même attitude que lorsque Pierre l'annonce, le révèle comme étant le Christ, en Marc 8, verset 30. Un peu comme s'il mettait une réserve et il craignait que on l'affuble de l'interprétation terrestre du roi ou du Messie. Et Jésus, lui, ne voulait surtout pas être un roi politique. Plus tard, devant Pilate, Jésus en donne la vraie raison. Jean 18, verset 36, « Mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. » Et justement, quand la foule proclame en Luc verset 19, chapitre 19, verset 38, « Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. » Et puis bien sûr, les pharisiens qui étaient au milieu de la foule dirent à Jésus, « Maître, reprends tes disciples. » Et il répondit, « Je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. » Ici, la gloire n'est pas pour un roi terrestre, mais pour le roi des rois, le roi des souverains de la terre. C'est ce nom qui est repris dans l'Apocalypse. Ce roi qui règne dans le ciel. Et Jésus, là, ne vient pas à l'encontre de ces paroles, parce qu'elles sont vraies. Jésus est le roi dans le lieu très haut. Et donc désormais, nous, en ayant bien nos deux pieds sur la terre, nous connaissons ce roi des rois. Nous connaissons Christ qui siège dans les lieux très hauts, qui se soumet toutes les autorités et qui règne dans l'Église. Ça, c'est dans Éphésiens 1, verset 20 à 22. Enfin, le dernier rôle que notre Seigneur a assuré est le prophète. Et d'habitude, on avait l'habitude que c'était les prophètes qui annonçaient les oracles, c'est-à-dire les réponses de Dieu. Et pour Jésus, là, c'est lui qui est l'objet de la prophétie. Qui est l'objet, puis non seulement ça là, et qui l'accomplit. Dans les moindres détails, Jésus, la parole faite chair, vit pratiquement les textes prophétiques de l'Ancien Testament. Il a vécu de son lieu de naissance qui était annoncé, qu'il était né d'une vierge, entrée triomphante à Jérusalem, qu'elle a été trahie par un ami, qu'il a été rejeté, qu'il a été crucifié avec des pécheurs, qu'il a eu les mains et les pieds percés, qu'il est ressuscité et qu'il est remonté au ciel. Sa vie a été décrite, et dans ses moindres détails, il a accompli cela. Et justement, avant son ascension, alors qu'il était sur le chemin d'Emmaüs, avec les deux disciples, et ces deux disciples ne comprenaient pas ce qui se passait. Et Jésus, en reprenant la loi et les prophètes, leur révèle ce qui le concernait. Luc, chapitre 24, verset 26, « Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire ?» En commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Ce grand prophète, John nous l'a dit, Moïse l'avait déjà annoncé, en nous recommandant de l'écouter dans tout ce qu'il dira. Mais au-delà de ce que nous connaissons maintenant, Jésus n'a pas seulement dit les choses, mais en étant lui la parole, il s'est appliqué à la mettre en pratique. Il n'y avait aucune différence entre ce qu'il disait et ce qu'il faisait, car cette parole était vivante. Et puis cette parole, elle s'est propagée. Jacques nous dit qu'elle a été plantée dans nos cœurs pour être pratiquée. Et Pierre, dans son épître, nous dit que nous sommes régénérés par la parole vivante et permanente de Dieu. Voilà cette œuvre qui continue. Ces trois offices, ces trois rôles continuent désormais et dans chacune de nos vies. Ce n'est pas seulement dans le ciel maintenant où Jésus règne, mais ici sur la terre, parce que nous sommes ici son peuple. Nous sommes ici le troupeau de son pâturage, comme nous dit la parole, et que nous sommes amenés aussi, nous, à officier dans ces rôles-là, ces rôles que le Seigneur lui-même a vécu.
Alors notre Seigneur a exercé son ministère d'une façon bien meilleure encore que ce que les personnages de l'Ancien Testament ont pu le faire. Mais je ne sais pas si vous avez perçu aussi dans ce que Pierre disait, c'est que dans un sens, Jésus lui-même non seulement annonçait la parole et non seulement était le porte-parole, mais il était la parole elle-même. Jésus non seulement offrait des sacrifices, mais il était le sacrifice lui-même. Il y a un dépassement en Jésus-Christ. Non seulement il faisait les choses mieux, mais il les a fait de façon plus parfaite et plus complète encore, qui fait qu'aujourd'hui, lorsque nous portons nos regards et que nous prêtons attention à ce que Jésus nous a laissé et qui il est, nous saisissons dans la plénitude de tout ce que Dieu voulait nous donner et dont il nous est dit que les anges cherchent à plonger leur regard dedans pour essayer de comprendre un tout petit peu ce qui est là-dedans, dans cette beauté de la révélation. Et j'aimerais que vous puissiez, dans les jours, les semaines qui viennent, méditer un petit peu sur cette excellence encore plus parfaite de Jésus par rapport à ce qu'on a vu dans l'Ancien Testament. Parce que l'Ancien Testament ressemble fort au monde dans lequel nous vivons et les difficultés que nous vivons aujourd'hui. Combien de fois est-ce que, comme Pilate, nous pouvons peut-être nous dire « Mais c'est vrai, dans telle situation, c'est quoi la vérité ?» Dans combien de situations est-ce que nous pouvons nous dire « Quels sont les meilleurs chefs que nous devons nous donner ?» Nous sommes le 6 mai. Dans combien de situations est-ce qu'on porte une culpabilité ou des gens portent des culpabilités et on se dit « Mais quel est le moyen d'en sortir ?» Et le même désespoir et la même aspiration qu'on a dans l'Ancien Testament, nous les retrouvons dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Et par moments, dans notre faiblesse, nous vivons exactement ces mêmes aspirations et ces mêmes attentes. Et c'est pour ça que se retrouver le dimanche et chanter la personne de Jésus-Christ, c'est pour ça que de regarder son œuvre dans toute sa diversité, dans toute sa richesse, est en fait le mot final à ce à quoi nous aspirons. Et si nous reprenons tout simplement les rôles de prophète, de roi et de prêtre, le rôle de prophète revient en fait à cette expression qu'on voit souvent dans l'Ancien Testament ou même dans le Nouveau Testament, que nous vivons dans un monde de ténèbres, un monde qui ne sait pas où il va. Et je ne vais pas vous montrer ce qui s'est passé dans les dernières années, qui démontre que notre monde en fait vit à très court terme et ne sait pas toujours exactement où il va. Combien de fois est-ce que nous avons l'impression d'être aveuglés, où des gens ne voient pas? C'est encore les stigmates du péché dans notre monde aujourd'hui et encore dans notre vie. Et ce n'est qu'à partir du moment où nous approchons non pas simplement de l'enseignement de Jésus-Christ, mais de la personne même de Jésus-Christ, que cet aveuglement est dissipé, que la lumière se fait. Non pas toujours avec une connaissance supérieure ou plus complète à celle des hommes, mais cette connaissance intime de la personne et dans la relation même au Seigneur qui nous conduit alors à ce moment-là par son esprit dans la vérité. Le prêtre. Est-ce qu'il faut que je m'étende sur encore les sentiments de culpabilité, de souillure, d'échec avec lesquels nous pouvons vivre, avec lesquels beaucoup d'hommes encore aujourd'hui vivent? Mais ici, nous avons une parole qui nous dit, non pas comment il faut encore offrir des sacrifices et comment s'en sortir par soi-même, mais que cela a été fait une fois pour toutes en la personne de Jésus-Christ. Que ce chemin, cet accès à Dieu a été ouvert une bonne fois pour toutes. Encore une fois, nous ne sommes pas défaits de quelque chose comme si nous étions des enfants rebelles, mais plutôt que les conditions ont été créées pour que, aujourd'hui, en toute liberté et en respectant la souveraineté et la pureté de notre Seigneur, n'importe qui, au nom de Jésus-Christ, peut s'avancer de Dieu le Père et recevoir son pardon. Plus encore, le Fils est assis à la droite du Père et d'un côté, j'y reviendrai, il est en train de se soumettre les dominations, mais de l'autre côté, il prie et il intercède en faveur de chacun des saints. Il y a une œuvre constante aujourd'hui de souverain sacrificateur de la part de notre Seigneur dans le ciel auprès de son Père et il plaide en notre faveur. Et ce texte nous laisse entrevoir que le Père écoute et accède à la demande de son Fils. Extraordinaire. Je ne comprendrai jamais comment le Seigneur lève ce sentiment de culpabilité qu'il peut y avoir dans le cœur d'une personne. Mais je sais que par l'action de son Saint-Esprit et en vertu de l'œuvre de Jésus-Christ, il le fait. Et aujourd'hui, c'est encore au cœur de la bonne nouvelle que nous pouvons proclamer les uns aux autres et nous exhorter les uns aux autres, mais aussi au monde qui nous entoure. C'est que notre culpabilité ne sera jamais assez grande, jamais assez grande, pour être un obstacle entre Dieu et nous, si nous nous appuyons sur Jésus-Christ. Enfin, notre roi qui est dans le ciel. Aujourd'hui, notre roi, il est en train de conduire son peuple. Notre roi est en train de se soumettre à ses adversaires. Notre roi est effectivement notre berger. Il nous est dit qu'aujourd'hui, le Seigneur, encore une fois, il n'est pas assis dans le ciel en attendant simplement que quelque chose arrive. Il est activement à l'œuvre en train de combattre les dominations spirituelles. Aujourd'hui, c'est lui qui est le chef de notre Église. Je crois que bien souvent, on l'oublie, ça. On oublie que l'Église est avant tout un corps spirituel. et que c'est le Seigneur qui est en train de nous conduire, encore une fois, quelles que soient nos différences, quels que soient les pays dans lesquels nous vivons, quelle que soit la couleur de notre peau, quelle que soit notre éducation. Il y a un chef aujourd'hui qui est en train de conduire son Église avec ses faiblesses, même lorsqu'elle a la trouille d'entrer en combat. Mais le Seigneur la rendra victorieuse et la purifiera pour qu'elle se présente un jour belle, pure, sans tache, pour ce grand moment de réconciliation. Mais notre Seigneur aussi nous libère aujourd'hui. Et là aussi, nous devrions contempler cela, de ne pas simplement nous résigner à voir des choses dans notre vie qui nous tiennent en disant simplement, lorsque le Seigneur reviendra, j'en serai libéré. Non, le Seigneur nous donne aussi la possibilité aujourd'hui d'être libéré. Et c'est ce combat que le Seigneur est en train de mener pour nous. Enfin, et ça j'ai eu l'occasion de déjà le dire dans une de mes prédications, c'est que le Seigneur, en tant que notre frère aîné, il a ouvert la marche. C'est à sa suite que nous marchons. Nous suivons son exemple. Nous savons que la victoire dans la vie humaine est possible parce que Jésus-Christ lui-même l'a remportée. Et donc il a ouvert une voie à la suite de laquelle nous pouvons marcher. Et c'est son intention que quels que soient les chemins de traverse ou les détours que nous pouvons prendre, ou quels que soient les événements, les obstacles qui se mettent en travers de nous, le Seigneur nous conduira et conduira son Église à la victoire. Alors, chers amis, je vous laisse aussi comme objet de votre méditation, non pas simplement cette grandeur et cette beauté, cette perfection de ce que le Seigneur a fait, mais à quel point c'est aussi la réponse de notre vie et de nos aspirations aujourd'hui. Et que si nous prenions, si nous manifestions la volonté et le désir de contempler le Seigneur, de voir son œuvre, je suis certain que notre propre vie continuerait de progresser à sa suite dans la connaissance de la vérité, dans cette liberté, dans notre adoration et dans notre culte et dans notre prière auprès du Seigneur, mais aussi sur le chemin de la victoire. Je vous invite à quelques instants de prière silencieuse, ensuite je terminerai. Seigneur Dieu, il y avait un avant Jésus-Christ et il y a un après Jésus-Christ. Et plus rien n'est pareil. Et Seigneur, aujourd'hui, nous aimerions le confesser et le reconnaître en lisant ta parole et en contemplant l'œuvre de ton Fils Jésus-Christ, mais aussi en voyant tout ce qu'il a fait pour nous dans notre propre vie. Et à quel point, Seigneur, il a ouvert nos yeux, a chassé les ténèbres dans notre propre vie. À quel point, Seigneur, nous nous sentons aussi libres de pouvoir nous approcher de toi. Mais aussi, Seigneur, pour cette espérance que tu as plantée dans notre cœur et qui de jour en jour se fortifie et s'affermit, qui nous fait croire et espérer en ton retour, en la victoire finale. Mais Seigneur, nous savons aussi que tout ce que tu as fait, c'est ce prix extraordinaire que tu as payé. Et Seigneur, j'aimerais te demander aujourd'hui que, par amour pour toi, nous puissions valoriser ce prix. Que nous puissions, Seigneur, ouvrir encore notre cœur afin que l'œuvre de ton Fils nous transforme par ton Saint-Esprit. Nous avons tous, Seigneur, quel que soit le nombre d'années que nous ayons marché avec toi, encore besoin de progresser. Encore besoin, Seigneur, d'être l'objet de ta bonté, l'objet de ta révélation, mais aussi de tes victoires. Seigneur, je te bénis parce que, encore aujourd'hui, dans ton Église à Prévesin, nous prions et nous célébrons et nous louons la venue et l'œuvre de Jésus-Christ, notre frère, notre Seigneur, notre roi. Au nom de Jésus, amen. J'ai envie de dire quelle joie, quelle paix, quel soulagement d'avoir ce prophète, ce roi, ce prêtre éternel, alors qu'on a tellement de mal aujourd'hui, 6 mai, à nous élire un président pour 5 ans seulement. Ça relativise un petit peu les choses, ça n'empêche pas qu'il faut les voter, mais ça relativise un petit peu les choses aussi, à qui nous appartenons. Merci pour cette fin d'étude sur le Christ. Le prochain volet qu'aborderont les anciens sera le Saint-Esprit, à partir du début du mois prochain. Voilà, les activités de l'Église cette semaine. Lundi 14h, Femme Club. Lundi 19h30, Conseil d'Anciens. Mardi, c'est la semaine des cellules de prière. Je n'ai pas les lieux exacts. Mardi, c'est toujours chez Emmanuel et Rebecca. Alors, on me dit Collonges, c'est chez Pierre et Déborah. Philippe, tu fais suivre. OK, on fera suivre. Donc, pour Gex, je crois qu'il y a des absents aussi. Donc, on va choisir et faire suivre. Voilà pour ce milieu de semaine, donc pour les études, les réunions de prière des cellules. Samedi 10 mai à 10h ici, un temps d'intercession pour la mission. Il y aura un invité, une personne qui vient de Tunisie, qui sera là pour témoigner aussi, Mourad, qui est un ancien footballeur professionnel et qui viendra parler de sa foi en Tunisie aussi. Brian nous en avait déjà parlé il y a un ou deux ans. Il avait expliqué comment cette personne s'était convertie sur le témoignage d'une femme. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Il avait abordé brièvement Brian. Et bien, il sera là, donc, et on souhaite qu'il rende aussi son témoignage au culte du dimanche prochain aussi. Et puis, samedi, 17h, explosion de louanges à Mury. On a parlé de louer, de prendre du temps pour chanter. Ce matin, vous avez entendu, chanter, sauter, danser. Mury, 17h, samedi, vous êtes les bienvenus pour partager ce temps. Dimanche, notre culte. Voilà pour les activités de la semaine. J'oublie quelque chose? Dates qui sont un petit peu plus loin. D'abord, vous dire que vous avez, pour arriver à cette date-là, vous avez vu ces chaises ce matin, comme elles sont mises. C'est curieux, hein? Pour celui qui est là, c'est pas terrible, je dois dire. Parce que là, en face, c'est le vide. Enfin, c'est pas le vide, c'est l'allée. En fait, les chaises ont été mises comme ça, simplement parce qu'elles sont mises par rapport à ce que nous demande la loi. Légalement. C'est-à-dire que la loi nous demande des rangées, pas plus de 8 chaises, avec 1,40 m d'allée. Voilà. Alors on essaye, peut-être une autre fois, ça sera empilé, en tas, on verra. Enfin, on essaye des solutions, mais c'est la solution la plus logique pour l'Église. Ça incite aussi que le couloir ira en même temps, en prolongement, avec la même largeur. Ça vous donne une petite réflexion. Et pour ça, je vous invite à une réunion qui aura lieu le dimanche 10 juin, l'après-midi, où on aura deux thèmes de réflexion, l'état des travaux pour l'Église, de la mise aux normes, de la remise aux normes, des projets pour l'Église elle-même au point de vue bâtiment, et puis parallèlement à ça, un deuxième temps de discussion aussi, où le Conseil vous apportera ses réflexions sur l'organisation de l'Église, quant au ministère et au service dans notre Église ici, et une réflexion sur la vision et sur les choses à mettre en place qui vous seront proposées. Donc je vous invite à déjà, ça sera l'après-midi, mais on ciblera pour, c'est pas un débat jusqu'au fond, on va porter les projets, les petites discussions, et on ciblera sur 2 heures, ouais, 2 bonnes heures, 2h30, 3 heures on va dire. Mais, vous savez comme c'est, hein, on dit 2 heures. Allez, entre 2 heures et 3 heures. Voilà. Mais c'est du temps, c'est du bon temps pour partager aussi dans l'Église. Hein. Dimanche 10 juin, l'après-midi. Et puis une autre rencontre aussi le 23 mai, en soirée ici. Le 23 mai, il y aura une rencontre pour le club d'été, le club des enfants, cet été, qui aura lieu une semaine donc ici en août. Alors c'est une réunion d'infos. Cette réunion aussi, on vous invite, si vous voulez donner du temps, si vous voulez vous engager à venir voir ce qui va s'y passer, c'est pas parce que vous venez que vous êtes obligé de vous engager, mais c'est important de venir aussi se renseigner et voir là où il y a un besoin. Il y a des tout petits besoins, il y a des gros besoins, et on va là aussi pouvoir partager ces choses-là. Voilà pour les activités qui viennent. Voilà,
je crois que j'arrive au bout de mes notes. Continuons à prier pour nos malades, pour nos personnes qui sont souffrantes, qui sont fatiguées. Vous l'avez lu, si vous avez vu sur le site, Robbie est rentré de l'hôpital déjà la semaine passée, il se remet. Il y a d'autres personnes qui sont fatiguées, d'autres personnes qui ne viennent pas, qui sont absentes aussi, d'autres personnes qu'on revoit. Et on veut vraiment penser à toutes les personnes qui sont âgées, qui sont fatiguées et qui souffrent, et à tous ceux qui sont moins âgés, qui souffrent aussi et qui aussi sont fatigués dans l'Église. Voilà, que chacun aussi prenne du temps pour prier pour les frères et sœurs. C'est important aussi pour cela de venir dans les cellules. Je vous invite à vous lever pour terminer ce culte. Et par rapport à ce que nous avons entendu sur le Christ, sur ce qu'a apporté le Christ pour nous, sur ce qu'il est pour nous, on trouve à la fin des épîtres de Paul différentes indications. Et je vous lirai trois versets qui sont pris dans trois morceaux d'épîtres différentes. Dans les Éphésiens d'abord, un vœu de Paul, une mission pour nous, que le Christ habite dans vos cœurs par la foi et que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour. Et puis aux Colossiens, Paul écrivait, « Quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant grâce par lui à Dieu le Père. » Et la fin de l'épître de la lettre de Paul aux Colossiens finit par cette bénédiction, que la paix du Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Amen. Bon dimanche à chacun.